Ce matin, on va s'attarder sur le psaume 1, que je vous invite à prendre, et qui a été introduit, merci Sam pour cette sélection de chants, puisque si on regarde un petit peu ce que nous avons chanté ce matin, une des choses communes à tous les chants que nous avons eus, c'est la marche, le chemin, avancer. L'autre point commun, ça a été le bonheur et la joie, et c'est un peu le thème de ce que nous allons voir ce matin ensemble. Alors, psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 1 a imaginé un recueil de 150 poèmes qui sont chantés. 150 poèmes. Les derniers poèmes terminent par Alléluia, Alléluia. Et vous ouvrez, alors, et puis les auteurs, parlons des auteurs de ces psaumes. La plupart c'est David, le roi David. On a Asaph. On a les fils de Corée. On a Salomon. On a Moïse. Vous voyez cette compilation au fil du temps, ce peuple qui compile des poèmes et des textes pour nous apprendre à prier. Et on ouvre le livre, on déroule le rouleau, et le premier mot que nous voyons, c'est « heureux l'homme ». Vous imaginez ?« Heureux l'homme », en introduction de ces 150 poèmes, de ces 150 textes qui nous apprennent à prier Dieu, on a « heureux l'homme ». C'est-à-dire qu'on a un Dieu, sa principale préoccupation, c'est notre bonheur. C'est notre bonheur. Et ce qui est intéressant dans ce psaume, alors il y a d'autres psaumes qui parlent de heureux l'homme et qui nous donnent des choses importantes. Heureux l'homme, on l'a chanté, qui cherche en Dieu son refuge. Heureux l'homme qui craint Dieu. Mais là, on a une première qui est heureux l'homme qui ne fait pas quelque chose. Vous voyez le truc? Heureux l'homme, attention, vous voulez être heureux? Avant toute chose, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Ça a le goût du bonheur, ça a la saveur du bonheur, ça ressemble à du bonheur. On peut y prendre plaisir, mais attention, ce n'est pas du bonheur. C'est un peu, bon, le premier, il y a quelques médecins dans la salle, le premier serment, la première chose dans le serment d'Hippocrate, c'est en un, ne pas nuire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire pour réussir, mais on sait comment échouer à coup sûr. Je sais pas si ce que je vais travailler là pour les plus jeunes, je sais pas si je travaille bien à l'école, si je vais avoir une bonne note. Mais je sais que si je fais rien, ça risque d'être difficile. Je sais pas si je suis attentionné avec ma femme, si je l'aime de tout mon cœur, je sais pas si mon couple va durer 80 ans ou 100 ans, je sais pas, mais je sais que si je trompe ma femme, si je lui mens, si je la trahis, la durée de vie de mon couple va prendre un petit coup. Donc, le Seigneur sait que pour être heureux, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc, on commence par là. Heureux l'homme. Alors, il faut voir que heureux dans l'idée de l'hébreu, c'est... Alors, Gilbert n'est pas là pour me corriger si je prononce mal, heureusement. C'est achar. Achar, c'est l'idée d'aller droit, d'aller en avant, d'avancer. Ce n'est pas simplement heureux. C'est l'idée de progrès, c'est l'idée que pour être heureux, eh ben, je regarde d'où je pars, je regarde où je suis, je regarde ce que j'ai traversé, c'est la source de mon bonheur. Le bonheur n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. Le chrétien, il est appelé à être en mouvement. Et c'est pour ça que le Seigneur va nous dire, attention où tu t'arrêtes, quoi. Si tu es... Mais heureux, c'est l'idée d'être en mouvement. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à être en mouvement. Shuraki, qui a traduit la Bible pour essayer de lui donner toute la poésie hébraïque, traduit. Alors, il n'y a pas, n'y voyez pas du tout du prosélytisme politique, mais Chouraki a traduit heureux par en marche. En marche, les simples d'esprit, en marche, ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est-à-dire, oui, si vous avez faim et soif de justice, soyez acteurs, allez. Quand le Seigneur nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est tout en allant, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes un peuple en marche. Nous sommes un peuple en marche. Et c'était toute la difficulté des Hébreux. Tant qu'ils étaient en marche dans le désert, tant qu'ils étaient en marche, eh bien, ils comptaient sur Dieu, ils s'appuyaient sur Dieu. Le jour où ils se sont arrêtés, aux portes de la terre promise, ils se sont arrêtés, c'était la catastrophe. Nous sommes appelés à être en marche. Alors, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on est bien dans l'idée de bonheur, on est bien dans l'idée de plaisir. Donc, qu'est-ce qui peut avoir l'aspect du plaisir, mais ne pas procurer du plaisir? D'abord, suivre le conseil des méchants. Alors, qui sont les méchants? Aujourd'hui, difficile. Le bien ressemble au mal, le mal au bien, c'est assez difficile. Alors, Patrick nous avait présenté le psaume 73, où c'est très clair. Les méchants. Alors, leur corps est chargé d'embonpoint. Mais c'est pas tout. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. L'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. En d'autres termes, les méchants se moquent de Dieu. Et là, il nous conseille, puisque si le Seigneur nous met en garde contre le conseil des méchants, c'est que non seulement ces méchants sont méchants, ce qui déjà n'est pas très sympathique, vous l'admettrez, non seulement ils sont méchants, mais en plus, ils nous conseillent, c'est-à-dire ils disent, viens, suis avec moi, viens avec moi. Tu verras comme c'est bon d'être méchant. Viens, allez, viens avec moi. Donc ils recrutent. Non seulement ils sont méchants, mais en plus ils recrutent les méchants. Alors qui sont-ils aujourd'hui? Hier, ils étaient ennemis de Dieu. Aujourd'hui, ils sont ennemis de Christ. Paul nous prévient dans Philippiens 3:18-19, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore, en pleurant. Et on les reconnaît, ceux du psaume 73, Paul continue, leur fin sera leur perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et quel est le conseil des méchants? Nous rallier à leur cause. Alors, aujourd'hui, un des canaux très 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 utilisés par les méchants, c'est la publicité. La publicité qui façonne un monde, façonne une façon de vivre, façonne une façon de penser. Et j'avais à cœur de vous mettre en garde contre cette arme utilisée par les ennemis de Dieu. Et juste pour... j'ai été interpellé par un discours en 2004, il y avait le PDG de TF1 qui disait « Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de rendre le cerveau humain disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. » Donc, voilà, un des canaux utilisés par les méchants, c'est la publicité. Le Seigneur nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, attention, quel conseil suivons-nous? S'arrêter sur la voie des pécheurs. La voie des pécheurs, il s'agit de l'habitude, de la direction. On a vu tout à l'heure que nous, chrétiens, nous sommes appelés à être en mouvement. Très difficile d'être tout le temps en mouvement. L'important, c'est d'être vigilant à l'endroit où on s'arrête. Il ne vous viendrait pas à l'esprit de vous arrêter sur l'autoroute, en plein milieu, de sortir de la voiture, de vous arrêter sur l'autoroute. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à être vigilants à quel endroit nous faisons des pauses. Où faisons-nous des pauses? Bien sûr, physiquement. Si j'ai, moi, personnellement, un souci avec la boisson, quand je vais dans un supermarché, je vais faire attention à traverser le rayon spiritueux rapidement. Mais à quel endroit notre esprit fait-il des pauses? Physiquement, c'est facile de voir où nous faisons des pauses, mais mentalement, où mettons-nous notre esprit sur pause? Hein? Est-ce que quand je suis sur le mode colère, quand je suis sur le mode amertume, quand je suis sur le mode médisance, je dis, celui-là, et je savoure, il y a quelque chose de bon. Comme tout à l'heure, suivre le conseil des méchants, c'est bon de consommer. C'est bon de consommer. Il y a quelque chose qui est savoure. Allez, on est en colère. Mais à un moment, on savoure sa colère. On dit, celui-là, si je le tiens. Et on savoure, et on savoure. Et à un moment, on est en colère d'être en colère, parce qu'on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et là, on est appelé à revenir faire la paix. Pourquoi péchons-nous? Puisque un résumé de la chose, c'est finalement, pourquoi péchons-nous? C'est-à-dire que effectivement, le péché est aussi source de plaisir. Plaisir égoïste, plaisir éphémère, plaisir dévastateur, pour les autres, pour nous, mais malheureusement, source de plaisir. S'asseoir en compagnie des moqueurs, ce qui est terrible. Vous avez remarqué ce qui fait rire tout le monde? Vous avez qu'à mettre les youtubeurs, vidéo gags, etc. Ha 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 ha, on a toujours une séance chute. Chute de cheval, chute de ski, chute de trampoline, chute, chute. Et c'est censé faire rire. C'est censé faire rire. Là où on devrait dire, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal, on est là à dire, ah, je suis content que ça ne soit pas arrivé à moi. T'as vu la gamelle qui s'est prise? Et le Seigneur nous dit non, 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 non. La moquerie, c'est à l'opposé de la compassion. À l'opposé, tout à l'opposé. Et le Seigneur nous invite à être compatissants. C'est-à-dire que quand je vois quelqu'un qui tombe, c'est je vais me pencher pour savoir, un, est-ce qu'il s'est fait mal? Et deux, pour pouvoir le relever. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Il a vu notre mal, il a vu notre état. Et il s'est penché vers nous. Il est mort pour nous et il nous a relevés. Alors, il y en a aussi qui se moquent, qui vont en compagnie des moqueurs pour ne pas être seuls. Vous savez, il y en a qui se moquent des autres parce qu'ils ont été moqués. Hein, en collège, malheureusement, des enfants ou même ailleurs, des gens qui harcèlent ont souvent été des gens harcelés. Alors, stop. Ne nous asseyons pas en compagnie des moqueurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne se moque pas. Je vous ai dit tout à l'heure que les moqueurs, les méchants se moquent de Dieu. Paul nous dit dans Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. En résumé de cela, heureux l'homme qui ne pêche pas. Heureux l'homme qui ne pêche pas, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Le véritable source de plaisir, c'est la loi de l'Éternel, la Torah. Le texte original, c'est la Torah. Ce qui était effectivement les cinq premiers livres, mais Torah, ça veut dire aussi enseignement. C'est-à-dire que ce psaume d'introduction, il est heureux l'homme qui médite aussi ces 150 psaumes et qui prennent l'enseignement de ces 150 psaumes. Il est comme... qu'il la médite jour et nuit, jour et nuit. Méditer, c'est murmurer. Le terme hébreu, c'est méditer, c'est murmurer, savourer, savourer. Qu'il la médite jour et nuit, c'est murmurer. C'est-à-dire que ça passe aussi par les oreilles. Ça passe aussi par les oreilles. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de, on pourrait dire de tes yeux, ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux. Non, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. De ta bouche. La parole de Dieu est une parole vivante, est une parole qui se savoure, est une parole qui rentre aussi, qui travaille aussi notre cerveau par les oreilles, pas simplement par nos yeux. Jour et nuit, sans cesse être abreuvé par la parole de Dieu. Jour et nuit, ça veut dire aussi dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Alors, comment il est cet homme? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est mystérieux ça quand même. Un arbre dont le feuillage ne se flétrit point. C'est là un mystère quand même. Je ne parle pas de manipulation génétique, parce que sûrement que demain on trouvera à faire des arbres qui ne flétrissent pas, mais à l'état naturel. Un arbre qui ne se flétrit pas. C'est mystérieux. Un arbre qui donne son fruit en sa saison. Je ne parle pas des fraises en décembre qui n'ont aucune saveur. Mais son fruit en sa saison, c'est quelque chose de mystérieux. Et en fait, On a là réuni dans ce verset toutes les sources de la vie. Toutes les sources de la vie. On a l'eau, on a la verdure, on a la verdure qui va nous donner l'oxygène. Il nous manque une chose pour la vie, il nous manque la lumière. Et cette lumière, elle est en Christ. Jésus dit, dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Sommes-nous en vie? Sommes-nous vivants? Avons-nous Christ en nous? L'eau à l'origine de la vie. Le Seigneur nous a dit à la femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui croit en moi, dans Jean 7, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. » Sommes-nous abreuvés? Vivons-nous dans cette source pour être à notre source, à notre tour, source pour les autres? Source pour les autres. Un arbre vert dont le feuillage ne se flétrit jamais. Nous avons parmi nous des arbres verts. Je pense à Gisèle, je pense à Jeanne Banos, je pense à Loisic Pitor. Allez les voir. Vous allez voir la verdure de leur feuillage. Vous allez voir comment elles abreuvent autour d'elles de la foi vivante qui est la leur. Parce qu'elles sont connectées à la source d'eau vive qui est Christ. Ils poussent à la lumière divine. Ils oxygènent les gens qui sont autour d'eux. Ce sont des oasis. Et le Seigneur nous appelle à être des oasis dans le désert qui nous entoure. Vous savez, j'ai eu la joie un jour d'aller dans un oasis. L'oasis, une des caractéristiques, c'est qu'on ne le voit pas. On le découvre au dernier moment, l'oasis. Pourquoi? Si on le voyait de loin, il serait mort, l'oasis. Avec les températures des déserts, il serait mort. Donc, l'oasis, c'est quelque chose qui est protégé, qui a une source. Et quand on trouve cette oasis, on a, après des heures et des heures de chaleur, des heures et des heures de sécheresse, on a une idée de la paix profonde. Plus rien ne compte. Eh bien, nous sommes, chacun d'entre nous qui avons accepté Christ dans nos vies, nous sommes des oasis dans le désert qui nous entoure. Laissons les gens s'approcher de nous. Soyons pas cachés comme les oasis, parce qu'effectivement, l'oasis, si on le met en plein désert, il est rapidement plus oasis. Mais nous avons une source permanente. Alors, soyons des lumières, soyons des oasis là où le Seigneur nous place. Pour que ceux qui ont faim et soif de justice viennent, nous côtoient, et que le fleuve de vie qui est en nous soit déversé auprès de ceux qui ont faim et soif. Alors, j'aimerais vous laisser cette poésie de Jérémie. Cette poésie de Jérémie, parce que si la parole de Dieu est une parole qui s'écoute, a fortiori les psaumes qui sont des poèmes sont des choses à savourer. Écoutez ce que nous dit Jérémie en chapitre 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Là, c'est important, c'est-à-dire que être vert, quand je vous dis d'être des oasis dans le désert qui nous entoure, être vert et ne pas craindre la sécheresse, parce que les temps durs sont là. Il y en a qui vivent en ce moment des temps difficiles. Il y en a qui vivent ce qu'ils pensent être des hivers. Mais s'ils ont en leur cœur la crainte de Dieu, alors ils ne cessent quand même de porter du fruit. Alors vous savez, la caractéristique d'un fruit, alors parmi vous, soit on est gourmand, on dit la fruit, alors il y en a parmi vous qui pensent plutôt mangue, banane, papaye, n'est-ce pas, nos amis antillais plutôt. Il y en a qui pensent plutôt pomme, prune, pour nos amis de Villeneuve-sur-Lot. Mais on a tous le fruit, c'est miam. D'accord? Mais porter une des caractéristiques du fruit, c'est pas simplement que ça se mange. Vous savez que c'est quoi la caractéristique du fruit? C'est que ça contient la semence. Ça contient la semence de l'arbre. C'est ce qui permet la transmission. Et nous, chrétiens, parmi vous, parmi nous, il y en a qui sont plutôt séquoias, s'ils ont choisi de pousser vers le haut, d'autres plutôt baobab, s'ils ont choisi de pousser plutôt en largeur. Il y en a qui sont plutôt bananiers, d'autres plutôt pommiers. Mais tous, nous qui avons accepté Christ dans nos vies et qui marchons en lui, nous portons dans nous la semence, l'ADN divin, et nous devons le transmettre. Nous devons le transmettre. Nous qui sommes en Christ, nous sommes à la fois porteurs de la semence, et nous sommes à la fois irrigation de ce que nous plantons. Et c'est le Seigneur qui fait croître. C'est extraordinaire, non? Nous sommes des pépinières vivantes. Nous portons la semence et nous portons l'arrosage. Et le Seigneur fait pousser. Vous imaginez pour ça? Heureux l'homme! Non? On est équipé pour. Le Seigneur nous donne une direction, un but et l'équipement qui va avec. Extraordinaire, extraordinaire. Soyons des pépinières, soyons des oasis. Abreuvons, irriguons. J'aimerais aussi... Faites ça pour le timing. Quelqu'un me fait signe si c'est trop long. S'il vous plaît, parce que je... Ézéchiel. Alors, on continue un petit peu dans la poésie. Ézéchiel 47. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Nourrir le monde et le soigner. Nourrir le monde qui a faim et le soigner, le monde qui a mal. C'est la mission que le Seigneur nous confie. Et nous savons que si nous prenons cette mission, nous serons heureux. Alors, donner du fruit en sa saison, c'est... Oui, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui pensent être dans un hiver qui dure. Seigneur, il y a ta parole, je me nourris de ta parole. J'aimerais donner du fruit, mais je vois... Oui, mon frère, ma sœur, tu as du fruit. Tu as un fruit en toi. Oui, il y a des hivers qui sont plus ou moins longs. Mais ne t'inquiète pas. Qui donne son fruit en son temps. Et le Seigneur fait toutes choses bonnes, non pas en notre temps, en son temps. Et le Seigneur fera croître ce fruit auprès de ton conjoint, auprès de tes voisins, auprès de tes collègues de travail, auprès de ta famille. Et le Seigneur va faire croître. Et tu seras un oasis là où le Seigneur t'a placé. Et ne t'inquiète pas, les gens vont venir vers toi. Parce que on rêve tous, tous ceux qui sont dans le désert, tous ceux qui sont dans le désert rêvent d'un oasis. Tout ce qu'il fait lui réussit. Josué 1:8. Non seulement que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, parce que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ayons cette confiance absolue dans l'Éternel, que le résultat soit négatif ou que le résultat soit positif. L'important, c'est le regard qu'on a sur le résultat, et même un résultat négatif. Le Seigneur nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur nous dit que nous réussissons. Si nous marchons en Christ et Christ en nous, alors nos résultats ne peuvent être que des réussites, même les résultats négatifs. Donc j'ai mis l'accent sur les sources de plaisir et sur l'avenir de ceux qui marchent avec le Seigneur. Juste un petit mot sur les méchants. Soyons tristes pour eux. Soyons tristes pour eux. Comme Jérémie, comme Ézéchiel, soyons tristes pour eux. Parfois, on pourrait être tenté de dire « Ah, je suis sauvé, yes !» Le méchant, lui, va à l'enfer. Non. Non. C'est comme rire de quelqu'un qui chute. Quelqu'un qui tend direction vers l'enfer, ça doit nous faire pleurer. Ça doit nous interpeller. Je me souviens d'une des premières évangélisations que j'avais faites de rue. C'est pas là que j'ai pas un don particulier pour l'évangélisation de rue. Je vois, il y en a qui veulent me recruter. Non. C'est pas là que j'ai le plus de talent. Et j'étais avec une sœur et on allait distribuer des traités, etc. Et j'avais peur. Et elle me disait, moi aussi j'ai peur. Ah, t'as peur de sa réaction? Elle me dit non. J'ai peur qu'il se prive de la gloire de Dieu. J'ai peur qu'il se prive de l'eau qu'on lui apporte. J'ai peur qu'il ait encore faim alors qu'on lui donne de quoi manger, de quoi boire et qu'il n'ait plus faim ni plus soif. J'ai peur de ça. J'ai pas peur qu'il m'insulte. J'ai pas peur qu'il se moque de moi. J'ai pas peur de ça. J'ai peur de sa direction à lui. Donc, ayons à cœur ces méchants. Et le Seigneur connaît nos voies et ceux des méchants, c'est la voie qui va à la perdition, à la perte. Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Proverbe 29, 27 nous est dit que l'homme inique est en abomination aux justes. Nous avons du mal à supporter l'homme pécheur, mais celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. C'est aussi pour ça que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Donc, nous sommes connus de Dieu. Nous sommes connus de Dieu. Le psaume 139 nous dit que le Seigneur, il nous sonde, il sait quand on s'assied, quand on se lève, quand on se couche. Il connaît tout de nous, il nous connaît depuis le sein de notre mère. Il nous connaît mieux que quiconque nous connaît. Et Christ est mort pour nous, pour les péchés que nous avions faits avant notre conversion. Mais il a tout pris à la croix. Il a toute la partition. Tout est couvert par le sang de l'agneau. Tout est couvert par le sang de l'agneau. Nos péchés passés, ceux actuels, ceux à venir. Je dis ça parce que parfois le malin nous dit « Ah, tu es chrétien toi ? T'as vu comment tu lui as répondu ? T'as vu le conseil du méchant ? T'as vu la pub là pour l'iPhone 13 ? T'as vu comment ça te fait saliver l'iPhone 13 ? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour ?» Pardon Seigneur, mais j'ai payé pour ça, relève-toi, marche, allez, en avant. Marche, relève-toi. J'ai payé aussi pour ça. C'est à la croix ça. C'est à la croix. Maintenant, avance. Alors, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Nous sommes, nous, chrétiens, amenés à faire la lumière sur ce qui fait tomber les méchants. Attention, mon frère, là, tu vas tomber. Attention, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, là, c'est vrai, c'est pour terminer. Là je termine vraiment. Avons-nous la vie ? Avons-nous la vie ? La source est en Christ. La source est en Christ. Nous avons en Christ... Vous savez, Jérémie, tout à l'heure, disait... Il cherchait la plénitude, il voulait complète espérance en Dieu. Colossiens nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de gloire. Nous devons marcher avec cette espérance de gloire. Et donc, Colossiens 2:6, ainsi donc, comme nous avons reçu le Seigneur Jésus, marchons en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui nous ont été données. Et abondons en actions de grâce. Prenons garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Que ce soit le conseil des méchants, la voix des pécheurs ou la table des moqueurs. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Marchons en Christ et nous avons l'assurance d'être heureux pour notre plaisir